Chapitre 4. Si peu renseigné que fut Marcel sur les complexités de la vie littéraire, il se rendait compte qu'entre les livres des écrivains et leurs personnes, ils se rencontrent tout ensemble un rapport intime et des divorces secrets. Surtout quand il s'agit d'œuvres aussi artificielles qu'un roman à la page, comme disait Gautier. Le tendre Racine avait dans sa nature des côtés cruels. Le généreux Rousseau était le plus vindicatif des hommes. Le génial Hugo, un manœuvrier de gloire, savamment occupé de sa publicité. L'auteur du Lac caché possédait-il la sensibilité infiniment délicate dont témoignait ce roman? Et s'il était l'amoureux de Paul Gautier, comme Marcel le supposait encore et toujours sans preuve certaine, pouvait-il, lui, le subtil et maladif analyste des nuances du cœur, joindre à ses dons de finesse émotive des calculs de base arriviste? Pratiquait-il des opérations telles que le brocantage d'une jolie maîtresse à un débauché sénile? La première question était de savoir si la jeune fille attendue par lui devant l'hôpital était vraiment cette sœur de Raymond Gautier à laquelle le grand-père semblait s'intéresser particulièrement. Mais comment Marcel n'aurait-il pas employé le moyen le plus simple? Alors guettait de nouveau la sortie des infirmières et demandait à une de ses camarades ou au concierge le nom de celle qu'il avait vue s'en aller avec Harry. Il s'y décida, et à peine achevé la lecture du Lac caché, il s'acheminait automatiquement vers les enfants malades. Arnie était là de nouveau, lui aussi, et la même jeune fille qu'un employé qui sortait nomma aussitôt à Marcel, après qu'il l'eut interrogé timidement, lui montrant qu'il s'éloignait au bras de son compagnon. « Oui, oui, c'est Mademoiselle Gautier qui part. Son service terminé, » répondit cet homme. Il regarda, non sans ironie, son interlocuteur s'engager à la suite des deux amoureux sur le boulevard des Invalides. Ils allaient lentement et s'arrêtèrent au petit square qui termine l'avenue. Ils s'y assirent. Des enfants y jouaient sous les arbres verdoyants qui entourent le monument élevé à M. Taine, en souvenir des promenades du grand philosophe vers ce paisible endroit dans les derniers temps de sa vie. Il y avait une antithèse saisissante pour Marcel Bréchet entre les austères pensées qu'évoquait ce monument et les tendres propos qu'échangeaient sans doute à cette place la laborantine et le poète du Lac caché. Ces propos n'étaient-ils que tendres ou bien concernaient-ils un plan d'exploitation scélérate que son devoir à lui était d'empêcher à tout prix? Bien, je ne connais, se disait-il, personne à Paris qui puisse me renseigner sur cette laborantine que Cortès, sur ce romancier, poète aussi, sur elle par des camarades d'internat, sur lui par la rumeur publique. Car enfin, quand un écrivain nouveau réussit, il soulève un tas de potins, il est impossible qu'un écho n'en arrive pas aux salles de garde. Si le Lac caché mérite de s'appeler le marécage caché, on doit pourtant le soupçonner. Et il rit lui-même de sa plaisanterie, et tel était son besoin de renseignements plus précis, qu'il gagna aussitôt la Hennec, d'où son ami était absent. Il laissa un mot qui lui donnait rendez-vous pour le lendemain matin, au modeste restaurant attenant à son hôtel. Il passa la matinée à lire, après l'avoir demandé dans plusieurs librairies, l'autre roman, celui qui avait précédé le Lac. Il y retrouva ce ton de ferveur sentimentale qui l'aurait moins surpris s'il avait connu la réaction de certains groupes littéraires contre la brutalité du réalisme. Il se rattache ainsi au Sainte-Beuve de Volupté, au Fromentin de Dominique, au Gérard de Nerval de Sylvie, pour ne parler que des morts. Cortès arriva un peu en retard à cause du service, et à la question que Marcel lui posa aussitôt sur Arnie, « Bon, je ne sais rien de lui, » répondit-il, « sinon qu'il écrit des bouquins prétentieux, vers et prose, dont je n'ai pas lu une ligne. Mais voilà ce que j'ai appris et qui t'intéressera pour tes Nivernais et ton enquête sur le projet de mariage qu'ils t'ont chargé d'étudier. Cette Paul Gautier, c'est un des flirts de ce monsieur, et qui dit flirt avec ses demoiselles entend un freudisme pratique, lequel va très loin. C'est un propos d'un camarade de son service qui m'a été rapporté ce matin même. Les laborantines, au quoi qu'elles ne soient pas de vrais médecins, donnent quelquefois l'exemple du vice proverbial de notre profession. Je te citais l'autre jour le proverbe sur l'invidia medicorum. Il leur arrive de parler les unes des autres avec la bienveillance que nos professeurs pratiquent entre eux. Mais ce flirt-là est profitable, car ce petit poète, coupeur de cheveux en quatre, passe pour riche. Ses mêmes bonnes camarades le répètent volontiers. Autre potin sur lui, il est, paraît-il, le fils d'un agréé très en vue au tribunal de commerce. C'était, du coup, ce renseignement de Cortès sur la fortune de Hargny, la destruction de l'hypothèque échafaudée par Marcel, sur les 100 000 francs mendiés dans la lettre à son père. La laborantine n'avait rien à voir dans le quémandage du vieux Bréchet. Si elle avait une liaison avec Hargny, comme l'indiquait l'intimité de leur rendez-vous, celui-ci pouvait suffire à l'entretenir et Marcel retombait dans l'incertitude sur l'issue de l'enquête dont il s'était chargé. Non, il ne s'agissait pas d'une exploitation par une intrigante. L'intérêt que l'homme d'affaires déployait pour Paul se justifiait, comme sa bienveillance pour l'employé de la librairie Guillquin, par le souvenir du père tué à son service. D'autre part, le témoignage de l'agent de change, l'innocentait les spéculations à la bourse, et le confort de l'appartement du boulevard Suchet démentait toute idée d'un embarras dans ses affaires assez sérieux pour expliquer cette étrange lettre, où d'ailleurs il parlait non pas d'embarras pécuniaire, mais d'un devoir qui tenait à son honneur. Mais pourquoi ne pas la lui poser à lui-même cette question, se disait Marcel en quittant Cortet. Cette expression même dont il s'est servi m'en donne le droit. Son honneur, c'est aussi le mien. Je n'ai pas d'autre excuse à mes propres yeux pour être ici. Qu'ai-je fait sinon une besogne de policier depuis ces 3 jours? Et un petit-fils qui espionne son grand-père encore un coup, c'est pas très propre. Lui parler à cœur ouvert, au contraire, ce n'est pas lui manquer de respect, c'est défendre notre nom à tous les deux. Ne sommes-nous pas solidaires? Non, j'ai trop tardé, je lui parlerai dès ce soir, puisque nous dînons ensemble. Mon père ne le connaît pas. Leurs conceptions trop différentes de la vie les a heurtés l'un contre l'autre, et je l'ai revu, moi, si affectueux, si chaud. Peut-être, dans ce qu'il me dira, trouverai-je le moyen de les réconcilier. Pour maman, ce sera plus difficile. Mais qui sait? Elle a dû avoir peur de son influence sur la carrière de papa. Cette peur aujourd'hui n'a plus de sens. Elle doit lui en vouloir aussi de cette brouille qui a duré tant d'années. Ah, si je pouvais la faire cesser. Oui, oui, dès ce soir, je lui parle. Cette résolution prise, il se sentit redevenu calme, et pour dominer un reste d'inquiétude, il eut le courage d'aller enfin à la Bibliothèque nationale chercher quelques documents sur Janus. Il trouva que, dans la vie privée, le chat romain, ce dieu était le gardien des portes et des ouvertures par lesquelles la lumière pénètre dans les maisons, d'où sa représentation avec l'insigne de portier. Une clé, témoignage de l'importance religieuse que nos ancêtres attachaient à la préservation de la demeure, c'est-à-dire de la famille. Ce mythe s'associait trop évidemment à l'œuvre de réconciliation domestique méditée par le petit-fils. Celui-ci voulut voir dans cette analogie un de ces avertissements mystérieux qui se produisent quelquefois dans nos destinées, et il demeura décontenancé par la joyeuse humeur avec laquelle le reçut son grand-père, qui se frottait les mains en disant « Bonne journée. Oh, un Américain venu pour voir un de nos appartements nous a indiqué quelques modifications il désire. Ces gens d'outre-mer sont dignes, oui, exigences de confort. Mais nous les avons acceptés en doublant le loyer que nous exigeons de lui. Il accepte à son tour. Voilà une excellente affaire. Et que nous avons fêté par un excellent dîner à mon cercle. Pourvu que le baccarat ne te tente point, je ne te conseillerai pas cet emploi de l'esprit d'entreprise. Cédons-lui d'abord, pensa Marcel. Après le dîner, s'il est toujours aussi content, ce sera vraiment le moment de lui parler. Le club, installé à la moderne dans les environs des Champs-Élysées, le raffinement du service, la cordialité des saluts échangés avec les convives, lui donnèrent l'impression d'une vie si large, si comblée, que le mystère des 100 000 francs brutalement demandés dans la lettre s'épaississait à nouveau pour le professeur de Nevers, habitué à un budget surveillé. Il se taisait sans que le grand-père semblât s'étonner de ses silences. Comme celui-ci l'entraînait après le dîner dans le grand jardin attenant pour mieux goûter sous les arbres la fraîcheur du beau soir d'été, il se rappela le tête-à-tête où il avait laissé la veille Paul et Arnie dans un cadre pareil de verdure paisible au milieu du tumulte de la grande ville. Du moins avait-il maintenant la certitude qu'aucun complot ne se traînait là combat contre le vieillard, lequel, assis dans le paisible jardin de son cercle, s'abandonnait à son tour à un silence où Marcel devinait son profond contentement d'avoir après tant d'années son petit-fils auprès de lui. Ce contentement se manifesta par une exclamation accompagnée d'un serrement de main si affectueux qu'il détermina la volonté du jeune homme. « Mais je vais bénir le dieu Janus pour t'avoir amené ici. Je suis bien heureux ce soir. » « Ne le bénissez pas trop, grand-père, » dit Marcel, à qui ce geste de sympathie rendait impossible la continuation même momentanée de son mensonge. « Ma thèse n'est pour rien dans mon voyage à Paris. Vous m'avez accueilli d'une telle manière que je vous dois la vérité. » Dans la demi-clarté du fanal électrique, il put voir changer la physionomie de son interlocuteur visiblement ému. Cette phrase n'avait de sens que si le petit-fils, messager de son père, apportait la réponse à la lettre dont il n'avait été question ni le premier jour ni depuis. Cette visite si douce au vieil homme y était donc associée. Il se leva et une angoisse passa dans sa voix pour demander « Quelle vérité ?»« C'est mon père qui m'a envoyé ici, à la suite d'une lettre que vous lui avez écrite et à laquelle il n'a pas répondu. »« Je ne veux pas croire, » dit Marcelin Bréchet, qui cette fois ne dissimula pas son irritation, « qui t'ai chargé d'un message que toi-même tu ne peux pas supporter et de me communiquer. » De deux choses l'une, ou bien tu dois, dans sa pensée, me transmettre un refus, ou bien, voulant savoir pourquoi je lui ai demandé une grosse somme d'argent, il t'a envoyé faire auprès de moi une enquête devant laquelle tu recules. Qui me refuse cette aide, je m'y attendais. J'ai pris mes précautions d'avance et je n'en ai plus besoin. Qu'il te mêle aux difficultés qui peuvent surgir entre nous, ça c'est indigne. Je te répète, je ne peux pas y croire. « Grand-père, » dit Marcel, en prenant à son tour la main de l'aïeul, qui ne la retira point, « puisque vous sentez ainsi, ne me faites pas juge entre mon père et vous. Ah, s'il avait ton cœur !» Et voulant épargner au jeune homme des phrases qui leur seraient pénibles à tous deux, le vieillard reprit. Bon, « il a pensé que mes affaires allaient de nouveau mal, et il t'a envoyé ici pour une enquête. » « Eh bien, tu lui apprendras qu'elles vont bien, très bien même. Tu en as déjà eu deux preuves. La visite de cet actionnaire hier, aujourd'hui celle de cet Américain. T'a-t-il communiqué ma lettre ?»«
Oui, » répondit Marcel à voix basse.
« Alors, tu auras vu qu'il y va pour moi d'une question d'honneur, d'honneur moral. J'ai même souligné le mot pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'affaires. Il m'était possible de me procurer l'argent que je lui ai demandé en ce moment. C'est précisément que je ne voulais pas mêler cette question d'honneur à des spéculations d'un autre ordre.
Je lui offrais de lui donner de vive voix une explication. Mais son accent affirmait une volonté subite qu'il manifesta en prenant le bras de son interlocuteur. « Mais puisqu'il te substitue à lui, je te la donnerai à toi, cette explication, sûr de trouver en toi une compréhension du cœur que je n'ai jamais trouvée en lui. Seulement, continua-t-il, sortons d'ici, ce n'est pas un endroit pour la confidence, je dirais mieux pour la confession que je te dois, car tu es mon petit-fils, celle du vrai motif de ma démarche auprès de ton père. Elle intéresse une certaine personne qui te touche de trop près, par le sang à ton insu, pour que tu n'aies pas le droit d'entendre cette confession. J'y insiste que moi j'ai le devoir de te faire. » La porte au fond du jardin donne tout près des Champs-Élysées. Nous allons passer par là. Je serai plus à l'aise pour te parler dans cette avenue où le tumulte de la vie extérieure redouble la conscience de la vie intérieure. Et c'est à ma vie intérieure qu'il me faut t'initier. Après, tu comprendras. » La solennité de la voix et la contraction de plus en plus marquée du bras du vieillard sur le bras de son petit-fils faisaient un commentaire inattendu à ce discours que Marcel écouta sans l'interrompre, tout le long des boutiques, des bars et des restaurants qui transforment cette promenade, jadis très tranquille, en une des régions de la vie parisienne les plus passantes et les plus bruyantes. Et voici les propos, pour lui si révélateurs, que tenait l'homme d'affaires, racontant le roman le plus secret de sa vie. « Cette histoire, disait-il, remonte à 1904, époque où je m'occupais de ma grande affaire d'automobile. J'avais les meilleures raisons d'espérer que le nom de Marcelin Bréchet figurerait un jour à côté de celui des Renault, des voisins, des Citroën, de tous les maîtres de la route. De mauvaises chances en décidèrent autrement. J'avais alors comme chef l'un de mes ateliers, dans une de mes usines, un certain Jules Gautier, le père de ce Raymond Gautier que tu as vu justement hier. C'est moi, je te l'ai dit, qui ai fait entrer ce jeune homme chez Gilles Quin. J'avais cru devoir m'occuper de lui à cause de la mort de son père, survenu dans mon usine à la suite d'une explosion. Elles étaient trop fréquentes à cette époque des débuts de l'automobile. J'arrive ici à l'aveu qui me soulagera d'un grand poids. J'ai toujours pensé, je pense toujours, que c'est un autre devoir absolu, celui-là, pour un chef d'entreprise, de respecter la vie familiale de ses employés. À ce devoir, j'ai manqué pour la première et dernière fois vis-à-vis du pauvre Gautier. Il était le mari d'une femme délicieuse, jolie, fine, et qui avait pour moi une autre séduction. Elle était née, elle avait grandi en Auvergne, dans ce vieux pont du château, dont les tours rondes enchantaient mes yeux d'enfant. Mais là, je n'étais pas heureux. Jules Gautier avait une forte et courageuse nature de bon ouvrier. Thérèse, sa femme, venait d'un milieu de petite bourgeoisie. Son père, clerc de notaire, s'était ruiné dans des placements imprudents. De sa première jeunesse, elle gardait cette nostalgie inconsciente, non pas du luxe, mais des bonnes manières et d'une atmosphère préservée qu'il fallait déclasser. J'étais veuf moi-même et en pleine crise de brouille avec ton père. J'avais voulu l'intéresser à ma nouvelle affaire automobile, il s'était refusé un peu durement. Croyez qu'il en avait le premier souffert, grand-père. À cette époque, maman venait d'hériter. Je comprends, reprit Marcelin Bréchet, ce scrupule de distraire ne fût-ce que d'un centime de l'argent de sa femme. Il avait les formes et il y manqua. Oh, ne revenons pas là-dessus. Je voulais seulement te faire sentir dans quelle solitude morale je vivais alors. C'est, oh, je ne dirais pas mon excuse, mais l'explication du sentiment passionné que m'inspira Madame Gautier. Devina-t-elle par mes semi-confidences que je traversais moi aussi une crise qu'elle voulut bien attribuer à la tristesse de mon veuvage, lequel remontait pourtant à plusieurs années. Pour les femmes imaginatives comme elle, le temps ne compte pas. Certains deuils étant toujours actuels, pour elles-mêmes, elles prêtent à ce qu'elles estiment une persévérance de sensibilité identique à la leur. J'ai l'air de lui chercher des excuses, quand c'est moi qui en aurais besoin pour me justifier d'une si grande faute contre mes devoirs de patron. Bref, je devins son amant, et cette laborantine, cette Paul dont son frère aîné, l'enfant légitime, celui-là, te parlait hier. Il hésita un moment, puis d'un accent où frémissait le plus intime de son être. Cette Paul, mais elle est ma fille. Pauvre grand-père, dit Marcel en lui étreignant de nouveau la main. Merci, dit le vieillard, qui continua après un silence. Pourquoi n'ai-je pas épousé sa mère quand elle est devenue libre elle-même à la mort de son mari? Ah, c'est tout un drame, dont je peux te dire qu'il fut celui de mon âge mûr. Il l'est encore. Étant donné le caractère délicat et sensible que je t'évoquais tout à l'heure, tu dois te rendre compte que ma liaison avec Thérèse avait suscité chez elle un bouleversement. Le scrupule du patron séducteur vis-à-vis de la femme d'un de ses employés n'est pas moins grand, vois-tu, chez cette femme, s'il a de l'honneur, et l'on en garde même dans l'adultère. Elle a eu le sentiment d'elle, je ne dirais pas entretenu, mais presque. D'où vient l'argent que touche son ménage? Et s'est trompé deux fois son mari, surtout quand ce mari payé par le patron et comme Gautier, un homme confiant, incapable de soupçonner la trahison. Il estime ce patron, il croit en son épouse. Thérèse avait donc des remords de femme et aussi de mère. Sa faute avait redoublé son affection pour son fils. Juge maintenant de la tragédie que lui représente l'accident survenu à son mari, qui le laisse infirme des deux jambes et fit de lui pendant plusieurs années un invalide, soutenu par notre compagnie dans des conditions que la fierté de Thérèse devait juger humiliantes. Et elle n'avait pas su quelle diplomatie j'avais déployée pour faire assurer cette rente aux blessés. Elle n'eut pas besoin d'exiger la rupture de nos relations coupables, qui me devinrent trop pénibles à moi-même, quand je constatais que chez elle, la haine était sur le point de remplacer l'amour. À cause de notre fille, je voulais solidement assurer sa vie matérielle et celle de mon enfant. Jules Gautier mourut. La rente diminuée resta valable pour sa veuve. Et ni elle ni moi ne fîmes jamais la moindre allusion à un remariage qu'elle n'eût accepté à aucun prix. Croirais-tu que si j'en ai été bien triste à de certaines heures, j'ai été fier pour elle de l'avoir se dévouer solitairement à son fils et à sa fille? Logique, avec ce que j'avais toujours discerné de noble dans son caractère, elle avait pris comme métier la confection de vêtements d'enfants, et si elle continuait à recevoir, à subir plutôt, la faible pension que lui assurait notre compagnie, aujourd'hui dissoute, elle en consacrait le revenu entier à l'éducation de son garçon. Elle soutenait sa fille par son propre travail, poussée avec tant d'énergie et de conscience qu'elle est arrivée à créer une petite maison où elle-même a des employés, et jamais, tu m'entends, jamais, elle ne m'a permis de l'aider ni directement ni indirectement. Si j'apprends que vous me recommandez à vos amis, me dit-elle un jour, vous ne verrez plus Paul. Et à son regard, à son ton, à son visage, j'ai compris que cette menace n'était pas vaine. J'y ai cédé en me réservant à part moi certains droits. C'est ainsi que j'ai pu faire entrer Raymond chez Gilles Quint. Cette démarche-là, Thérèse l'a acceptée, précisément parce que mon obéissance à ses volontés lui prouvait mon intelligence de ses scrupules. Pour notre fille, oh, ses sentiments et les miens sont plus complexes. Au fond, elle n'a jamais aimé Paul de tout son cœur. La grâce même de cet enfant de l'amour lui rappelle trop la faute qu'elle n'a pas cessé d'abhorrer. Elle n'a jamais cessé d'être, d'autre part, de reconnaître les droits que j'ai sur notre enfant. Elle ne s'est pas opposée à leur exercice dans la mesure où je me le permettrais à moi-même. Je t'ai dit qu'elle réussissait dans son métier. Elle a maintenant un atelier composé très modestement de 2 ou 3 aides. J'avais cessé de m'occuper d'automobile. J'avais fondé une agence de location qui fut le principe de mon actuelle agence mobilière. J'étais naturellement très occupé, Thérèse aussi, et nous nous voyions très peu. Notre fille, ayant toute petite, manifesté des dispositions d'intellectuel, j'avais à plusieurs reprises suggéré à sa mère qu'il ne fallait pas l'emprisonner dans une éducation de métier. Elle m'écouta, poussée à son insu par cet attrait de l'existence bourgeoise qu'elle avait connue tout enfant. Elle plaça Paul dans un lycée. La petite réussit, intéressa ses maîtres, passa des examens, et c'est ainsi qu'elle se vit une position à l'assistance publique. Elle devint ce qu'elle est à présent, une laborantine, et affirme les docteurs qui l'emploient, une bactériologiste remarquable. Elle est aujourd'hui aux enfants malades dans cet hôpital jumeau de celui de Necker, à l'extrémité de la rue Masseran. « J'y suis allé, grand-père, » interrompit Marcel, « parce que le nom de Mademoiselle Gauthier et sa profession sont connus de mon père. Je dois tout lui dire. Il s'occupe de vous plus que vous le croyez. Comme la calomnie n'épargne personne, votre nom associé à celui de cette jeune fille a donné lieu à des commentaires que j'ose à peine vous répéter. » C'est cela aussi que j'ai été chargé de savoir à Paris. Si elle était ma maîtresse, s'écria Marcelin Bréchet, ton père a pu penser cela de moi? Non, non. Mais s'il n'y avait pas aux yeux de sa part ou dans son entourage une intrigue, un projet d'exploitation de votre bonté, de votre faiblesse, d'une passion peut-être. Le mot d'honneur, souligné dans votre lettre, pouvait avoir ce sens. On expie toujours toutes ses fautes, dit le vieillard, et cette paternité en a été une si grave. Je dois la payer. C'est dur de la payer ainsi. Alors, demanda-t-il en se dominant, tu as vu Paul? Oui, répondit Marcel. N'est-ce pas qu'elle est belle? Mieux que belle, si intéressante par son expression sérieuse et réfléchie. Il était trop naturel, dans la dépendance où elle vit, n'étant occupée que 8 heures dans la journée, qu'elle rencontra des jeunes gens pour lui faire la cour. Elle s'enveloppe d'une réserve si farouche qu'elle a échappé à ce danger jusqu'au jour où le hasard voulut que son chef de service l'envoya faire une prise de sang à un agréé pour le tribunal de commerce menacé d'azotémie. Le nom va t'étonner, maître Théodore Harny, le propre père de l'écrivain dont Raymond te parlait avant-hier, l'auteur de ce lac caché. Son portrait t'a même tellement frappé que tu as emporté son volume. Lui aussi, ce jeune homme, je l'ai vu lors de ma visite à la porte des enfants malades. Il attendait là Paul Gauthier. Je vous compléterai ma confidence, grand-père, en vous avouant que je les ai même soupçonnés d'être amants et maîtresses et, ne le sachant pas riche, de s'entendre pour vous exploiter. Ah, toujours le paiement, s'exclama Marcel Bréchet. Ce que tu viens de me dire m'a fait mal. Pardon, répondit Marcel. Non, tu as eu raison de me parler franchement. Mais s'ils s'entendent si peu pour m'exploiter, que j'ai eu une conversation avec Harny au sujet de Paul. Elle vous a demandé d'avoir cette explication avec lui? Non, mais sa mère. Si je t'ai bien expliqué l'étrange situation qui s'est établie entre Thérèse et moi, tu dois comprendre que j'observe une grande prudence dans mes rapports avec Paul. Je les maintiens très discrets, très surveillés, pour ne pas provoquer ses réflexions. Je la vois si fine, si sensible, trop sensible. Ce que je t'ai dit des complexités du cœur de sa mère dans leur relation, Paul le devine. Elle en souffre sans s'en rendre compte, ni rien soupçonner du passé. Mais voici les faits. Raymond Gauthier admire beaucoup Barney, l'auteur de la maison. À 20 petits signes, il a compris qu'une intimité se nouait entre l'écrivain et sa sœur. Il estime trop haut Paul et aussi Alfred Harney pour supposer cette intimité coupable. Avec raison, il l'a jugée dangereuse. Il en a tout net parlé à sa mère pour laquelle il professe un culte. Cette mère en a elle-même parlé à Paul. Mais celle-ci a le caractère d'être à la fois très silencieuse et très franche. Jugeant d'ailleurs n'avoir rien à se reprocher, elle a tout confessé à sa mère. Qu'elle et Harney s'aimaient, qu'ils se l'étaient dit, mais que le père faisait une objection radicale au mariage de son fils avec une fille sans dot. Ce refus de consentement céderait-il, elle l'espérait. En tout cas, les façons de sentir du jeune homme et les délicatesses de conscience dont témoignait le lac caché l'avait décidé à continuer des rapports qui la rendaient heureuse. Il s'était secrètement fiancé. Avant de le connaître, avait-elle dit à sa mère, je ne vivais pas, j'étais morte. Cette phrase épouvanta la pauvre femme et détermina chez elle une démarche dont tu comprendras qu'elle m'est, moi aussi, bien émue. Pour la première fois depuis son veuvage, elle me demanda un rendez-vous. Elle me dit qu'elle considérait comme son devoir de révéler au véritable père de Paul le drame sentimental que traversait leur fille. Ben, c'était me demander de constituer une dot à la pauvre enfant. Elle s'en rendait compte, elle en était humiliée et désespérée, mais elle estimait, et elle me le dit, que dans certaines relations anormales, comme celle qui m'unissait à Paul, la première obligation et qui prime toutes les autres est la vérité. Pourtant, aider notre fille à faire sa vie, je le devais. Ai-je besoin d'ajouter que j'abondais dans son idée? Je lui promis de constituer à Paul une petite dot en employant une voix détournée qui empêcha tout commentaire. Oh, je n'ai pas dans ma vie traversé une scène plus pénible. Les sous-entendus en étaient si douloureux pour moi et pour cette pauvre mère chez laquelle cette démarche touchait aux fibres les plus secrètes du cœur. T'expliques-tu maintenant cette lettre écrite à ton père ? Et comprends-tu quelle signification avait pour moi ce mot d'honneur que je ne pouvais pas commenter ? Il aurait dû penser pourtant que je ne l'employais pas sans un bien grave motif. Ils arrivaient à l'Arc de Triomphe. Brusquement, le vieillard tendit la main à son petit-fils en le quittant. « Laisse-moi rentrer seul, Marcel. Mon émotion est trop forte. Tous ces souvenirs me bouleversent. C'est la tragédie de ma vie que je viens d'évoquer devant toi, et une tragédie qui n'est pas achevée. Reviens demain matin, boulevard Suchet. Tu me diras comment tu estimes devoir te comporter devant cette révélation. Je l'aurais faite à ton père s'il avait répondu à mon appel et s'il avait accepté de m'avancer cet argent. Il aurait dû pourtant penser que je ne m'adressais pas à lui sans une raison profonde et que cette demande d'un prêt pareil à mon âge, bon, je n'insiste pas. Il t'a envoyé et de cela je lui reste trop reconnaissant pour que ta présence n'efface pas tous mes griefs. À demain donc, je te dirai quel procédé j'ai imaginé pour que la source de cette dot reste anonyme. Adieu, mon enfant. » Chapitre 5. Revenu chez lui, Marcel se mit à sa table pour commencer une lettre à son père, impulsivement, automatiquement. « Ma mère doit tout savoir, pensait-il, d'un secret de famille qui nous concerne tous. Il ne s'agit ni de questions d'argent mal gérées à regretter, ni de susceptibilités réciproques à déplorer. Elle est bonne chrétienne, elle comprendra. » Et il rapportait dans tout son détail sa conversation avec son grand-père. Ses pages, une fois écrites, il les plia sans même les relire et les glissa dans une enveloppe dont il libella l'adresse sans hésiter. Il éprouvait un soulagement à se sentir délivré d'incertitude. Quelle décision prendrait son père, il l'ignorait. Mais il l'estimait trop pour ne pas le savoir d'avance, conforme à ce devoir du sang dont nous portons l'instinct irrésistible en nous. Il s'agissait d'une sœur. Oui, Paul était sa sœur. Et ce mot d'honneur, souligné par leur père commun, pèserait de tout son poids sur la conscience du grand bourgeois français qu'était l'ancien fonctionnaire. Le jeune homme se coucha en laissant cette lettre révélatrice sur sa table de nuit. Il la touchait, toutes lumières éteintes comme pour palper la réalité d'une situation maintenant lucide à ses yeux. Une hypothèse s'offrit à lui dès son réveil, plus compliquée, mais elle comportait un acte conforme à sa propre nature. L'enverrait-il cette lettre? Connaissant la rigueur des principes sociaux de son père et l'ayant vu les vivre, si strictement, il pensait que la voix du sang ne parlerait peut-être pas plus haut qu'eux. Cette liaison du patron avec la femme de l'employé lui causerait une horreur profonde. Jusqu'alors, le trésorier payeur général avait condamné chez l'homme d'affaires des procédés d'aventurier. Il porterait sur cet adultère un jugement d'un autre ordre. Il leur mépriserait. D'autre part, cette vérité cruelle, était-il nécessaire de la dire? Le nécessaire était que la somme d'argent demandée pour Paul fût donnée au vieillard. Une idée subite vint à Marcel. Un oncle maternel lui avait légué par testament des valeurs dont une banque d'Avalon lui servait les intérêts. 10 000 francs de rente destinés à aider sa carrière d'universitaire médiocrement payée. Certes, ces 10 000 francs de rente étaient bien à lui. Les valeurs avaient dû être choisies par l'oncle à viser de telle sorte qu'elles ne subissent pas les fluctuations de la bourse. Ben, « Je les vendrai, se dit-il. Je saurai bien leur taux exact. Ces 10 000 livres de revenus supposent 200 000 livres de capital, le double de la somme que demande mon grand-père. Eh bien, les 100 000 francs qu'il désire, je les lui donnerai. » Mais acceptera-t-il? Et puis mon père a lui-même son compte à la banque d'Avalon. Il apprendra certainement que j'ai réalisé cette petite fortune. Dans quel dessein? Il voudra le savoir, il en devinera l'emploi. Son idée n'était encore qu'à l'état de projet quand le lendemain il arriva au rendez-vous du boulevard Suchet. « Eh bien, lui demanda le vieillard avec une visible anxiété, as-tu écrit à ton père ?»« Voici ma lettre, répondit-il. J'y ai apporté toute notre conversation, lisez-la. Si vous jugez que je peux l'envoyer, elle partira aujourd'hui. » Il tendait l'enveloppe, déjà timbrée mais toujours ouverte, à son grand-père, qui commença de lire la lettre, sans que son visage, contracté à la fois et décidé, traduisît ses impressions. Quand il eut terminé, il commença d'aller et de venir dans la chambre, toujours silencieux. Il avait dû, au cours de ses entreprises, arrêter dans l'ordre matériel des résolutions très graves. Il avait retenu de cette discipline un pouvoir de se contrôler lui-même qui se manifestait à cette minute. Le jugement d'un fils devient toujours une redoutable épreuve quand il s'agit de savoir si l'on rencontrera la condamnation ou le pardon d'une faute irréparable. Marcel le sentit tellement angoissé qu'il ne put lui-même se taire davantage. Bien, grand-père, j'ai trouvé le moyen de tout arranger sans que personne connaisse votre secret. Je me trouve avoir en dépôt à une banque d'Avallon des titres, moi, légués par le frère de ma mère, plus de 100 000 francs. Ils m'appartiennent en toute propriété. Acceptez que je vous les prête pour en faire la dot à De Paul. Vous m'en servirez l'intérêt et me rendrez, quand vous le pourrez, le capital dont je n'ai pour ma part aucun besoin. Je dirai à mon père, en rentrant à Nevers, qu'en lui écrivant, comme vous avez fait, vous appréhendiez une grosse difficulté financière qui est évitée. S'il ignore que j'ai disposé de ma propre fortune, rien ne se produira. S'il l'apprend, je lui parlerai d'un secours donné à un ami que je ne peux nommer. J'en serai quitte pour une scène pénible. Du moins, votre secret sera gardé et je vous aurai, moi, un peu payé la dette que j'ai contractée envers vous. Si vous n'aviez pas travaillé comme vous avez fait, nous serions restés, et moi d'abord, des demi-paysans d'Auvergne, comme tous les nôtres, pendant plusieurs siècles. Marcelin Bréchet regardait son petit-fils avec des yeux d'une inexprimable tendresse. Comme la veille, il prit le jeune homme entre ses bras et le serra longtemps contre son cœur. Puis, gravement mais simplement, « J'accepte en principe, d'autant que tu n'y perdras rien. Si d'ailleurs, comme je l'espère, ma société immobilière réussit, j'aurai le droit de t'assurer par mon testament cette indépendance que tu veux me sacrifier. Merci pour Paul et merci pour moi. » « Mais c'est moi, répondit le jeune homme, qui dois vous remercier. Vous me donnez la plus grande joie peut-être de ma vie, celle de recréer l'unité de la famille dont la rupture m'est si douloureuse. » Prenant la lettre à son père, il la déchira en 1000 morceaux. Comme le vent soufflait, il jeta ses débris les uns après les autres par la fenêtre et les regarda tourbillonner. Puis se tournant vers son grand-père, en nous quittant hier, vous m'avez annoncé que vous voyiez le moyen d'assurer à Paul cette dot qu'exige M. Arnipère, sans que l'origine en soit connue, mais est-ce possible ? Possible, oui, il faudra du doigté, mais comment n'en aurais-je pas après tant d'épreuves ? L'homme d'impression, si expansif la veille, cédait maintenant la place à l'homme d'action. Marcel remarqua de nouveau cette alternance qu'expliquaient les contrastes de cette destinée, tour à tour imprudemment exaltée par l'espérance et immobilisée dans les reploiements du calcul. « Oui, continua le grand-père, tu étais un tout jeune collégien. C'était dans ma dernière soirée chez vous à Auxerre. On t'avait donné comme sujet pour une dissertation cette phrase d'un ancien, tu l'admirais beaucoup. Il faut faire de l'obstacle la matière de son action. Tu n'étais plus le petit garçon de « Amen, Amen ». L'obstacle à ce mariage avec Alfred Arny ne réside pas uniquement dans la pauvreté de Paul. Il réside aussi dans son métier. Il est trop naturel qu'un agréé près le tribunal de commerce ne veuille pas pour bru d'une bactériologiste, à moins que cette bactériologiste n'ait un labo à elle où elle travaille, non plus pour l'assistance publique, mais pour son propre compte, et qui représente un capital. Ce capital, les 100 000 francs que je demandais à ton père et que tu m'offres, doivent servir à le constituer. J'ai étudié déjà la fondation d'un petit institut d'analyse médicale que dirigera un docteur qui accepte. J'en serai le principal actionnaire et Paul, vu ses études et sa situation aux enfants malades, deviendra la principale infirmière. Je m'arrangerai pour que son traitement et la longueur de son contrat, avec un fort dédit, représentent l'équivalent du capital que M. Arny peut désirer. J'ai communiqué mon idée à Thérèse, qu'il accepte. Reste à savoir ce que valent tes titres et comment tu peux les réaliser. Et puis, mets-toi là, il avançait le fauteuil de son bureau. afin d'écrire à ton père en termes convenus que ton enquête est terminée et que tu prolonges ton séjour à Paris pour étudier ta thèse. Ça, c'est pour moi. Et avec un bon sourire, tu seras comme ton Janus, tu auras deux visages. Mais, dit Marcel, pour faire évaluer mes valeurs et les vendre, ne serait-il pas plus prudent que cette opération se fasse à Paris ? Non, c'est très simple. Après le déjeuner, nous passons à la banque où j'ai mes fonds. Je te présente au directeur, qui est mon ami, un monsieur Chabanon, un Auvergnat, comme nous. Il se charge de tout. Quelques jours et tes valeurs sont ici. Chabanon t'avertit du cours de la bourse. Tu signes d'avance un ordre de vente et la somme t'attend chez lui. Quel rôle ! Et il criait gaiement de nouveau, pour un grand-père, de faciliter ce que ton père appellerait tes débordements. Moi, ma conscience est bien tranquille. Mais allons déjeuner et faire notre course chez Chabanon. J'ai vers 3 heures un rendez-vous important auquel je ne voudrais pas manquer. Je verrai sans doute à cette réunion quelques personnes capables de s'intéresser à mon idée d'un institut médical. Voilà bien mon caractère, ajouta-t-il. Cette idée me travaille la tête. Il ne s'agirait même pas de Paul que le projet de cette société-là me fascinerait. Oh, si ton père nous entendait, il parlerait maintenant de mes emballements. Il me les a tant reprochés. Mais le mot est-il français, monsieur le professeur ? Pas trop, répondit Marcel, mais l'usage. Et désireux de ne pas revenir sur leur commune préoccupation, il prit texte de cette allusion à sa vie universitaire pour aiguiller pendant le déjeuner la causerie sur les déformations du langage. Il expliquait ce qu'avaient signifié autrefois ces vocables, enchantés, charmants, étonnés, si banalisés aujourd'hui. « Cela prouve que tout s'use, » dit le vieillard, qui, pensant à sa fille, ajouta « Et l'introduction des termes scientifiques dans le langage courant, quelle mode ! Quand tu connaîtras Paul, tu resteras éberlué de l'entendre te dire « J'ai fait 3 métabolismes ce matin » ou bien à propos des anxiétés de sa mère « Oh, c'est de l'hémophilie morale !» Mais, et il tirait de son portefeuille une feuille tapée à la machine, « Lis ceci et promets-moi de garder le secret. » C'est une page d'elle, une note pour son frère. Celui-ci est en train de constituer un dossier pour un ouvrage que prépare sa librairie, une enquête, comme on en publie aujourd'hui, sur la jeune fille moderne. Il a demandé à sa sœur de lui fournir des renseignements sur les laborantines. Paul lui a simplement donné le détail d'une de ses journées. Tu verras avec quel sérieux elle exerce son métier. J'ai demandé à Raymond de me prêter ce document. Pas en connaissance. Tu verras quelle belle âme simple, si sérieuse et si droite. Sa mère, vraiment, sans la faute. Journée d'une laborantine. 6 heures. Sonnerie du réveil. Vite, vite, réveille-toi. Le temps de dire tes prières et de rêver un peu à ce que tu feras le dimanche ou les vacances prochaines. Les idées manquent encore de netteté et l'imagination en profite. Le passé défile avec ses chagrins si estompés qu'on les prendrait pour des joies. Le présent est magnifique et l'avenir triomphant. Pauvre folle, tu vas être en retard. Déjeuner rapide, toilette de la laborantine et de sa chambre, quelques mots avec ma mère, pourvu que je puisse prendre le métro de 7h10. Enfin, je suis arrivé. Déjà à Babylone et le square des Invalides, bouffée d'air pur. Que les arbres sont jolis sous le soleil matinal, pourvu que mon autobus ne tente pas trop. J'ai hâte de savoir si l'hémoculture du numéro 2 est positive. Déjà hier soir, je ne pouvais pas m'endormir en pensant à cette petite malade dont la guérison dépendait un peu de moi, et la voilà ce matin, encore présente à mon esprit et qui semble dire « Halte là, à ma pensée vagabonde. 8 heures, en uniforme d'infirmière. Le travail du laboratoire commence. Examen des cultures qui sont à l'étuve depuis 24 heures, et si besoin, réensemencement sur milieux spéciaux. Examen d'une ponction lombaire qui permettra de savoir à quel microbe est due l'affection méningée et de sauver le petit être en lui injectant le sérum bienfaisant. Numération des globules sanguins pour déceler l'anémie pernicieuse. Examen des mucosités de la gorge pour y chercher le bacille, agent causal de la diphtérie et du croup, qui emportait tant de pauvres enfants avant la découverte du docteur Roux. Vers 10 heures, après la visite du chef de service, nouvelle demande d'examen de sang, hémoculture, prélèvement de pus. Alors la laborantine se rend dans les salles pour ses prélèvements. Pour tous les malades, elle sera l'infirmière qui fait souffrir. Or, on ne l'aimera pas comme celle qui soigne. Il lui arrive même d'être repoussé. Adieu les élans de reconnaissance qui la comblaient d'orgueil et l'attendrissaient quand, petite élève infirmière, elle faisait ses stages auprès des malades. Elle ne les regrette pas. Ça paraît si belle avec la satisfaction d'une tâche scrupuleusement accomplie et l'immense fierté de posséder la confiance des médecins de son service. Interruption d'une heure pour déjeuner au réfectoire de l'hôpital. L'après-midi est employé à terminer les examens et inscrire leurs résultats sur des cahiers qui accompagnent les visites des médecins pendant leur passage au chevet des malades. À 17 heures, la journée s'achève et la laborantine, en reprenant ses vêtements de la ville pour entrer parmi les siens, voudrait bien ne pas apporter à leur foyer le poids d'une responsabilité qui parfois l'accable. Elle n'y réussit pas toujours. Cette lecture achevée, rendant la page à son grand-père, « Et moi, dit Marcel, qui trouve quelquefois mon métier de professeur si fastidieux, quelle leçon! Oh, il faut que je la voie, que je l'entende parler, cette demi-tante, que je n'appellerai jamais tantine, comme la sœur de maman quand j'étais petit. » Cette résolution était si bien prise qu'après la visite chez Chabanon et les formalités bancaires accomplies, il quitta son grand-père hâtivement et se fit conduire à la Hennec. « Il n'est pas 3 heures, calculait-il. Je vais chercher Cortet. S'il est libre, il me mènera aux enfants malades. Il trouvera bien quelques camarades pour nous conduire jusqu'au laboratoire où travaille Paul. Je la verrai, je l'entendrai. » Et je communiquerai avec cette belle âme, comme dit si bien mon grand-père. Chapitre 6. Cortès se trouvait libre. Il reçut Marcel dans sa chambre où il rédigeait les notes prises le matin à la visite du professeur Louvet, l'infatigable clinicien. « Quelle belle fin de vie !» s'exclama-t-il, après avoir expliqué à son ami son occupation. Louvet, entre la dernière année de son cours à la faculté et de ses séances quotidiennes à l'hôpital, il va sur ses 70 ans, un demi-siècle de dévouement professionnel, et il nous disait encore ce matin combien Trousseau avait raison de parler du charme qui accompagne l'étude de la médecine. Il nous citait cette autre phrase de ce maître, « Il faut toujours voir des malades, toujours, toujours. » En a-t-il vu, lui, Louvet ? Il s'en est pas lassé. Quant à moi, je me réjouis chaque matin d'avoir choisi cette carrière. Mais tu déplorais l'autre jour les mesquineries et les ennuis de ton métier. Oui, mais nous avons vu ce matin de si beaux cas que je me suis réconcilié avec lui. Voyons, n'as-tu pas quelquefois des moments où toi aussi tes auteurs grecs et latins te puonnaient ? Pardon du mot. La grande affaire, vois-tu, c'est d'avoir un métier à travers lequel on puisse faire son esprit et qui soit utile aux autres. Quel écho, pensa Marcel, de ma tantine inconnue. Et Cortet, comme il l'avait lu dans la pensée par un don de seconde vue, reprenait. Bon, mais tu dois avoir quelque chose à me demander sur ta mademoiselle Gauthier. Si tu restes à Paris, c'est que tu veux donner à tes Nivernais qui se préoccupent d'elle pour un mariage des renseignements plus exacts. J'en ai pas de nouveau. Tu ne connais pas quelques camarades à l'hôpital où elle travaille? Aux enfants malades, si. Mon vieux copain Discoët. Ben, je l'ai pas vu ces jours-ci. Ah, il l'aime, lui, notre métier de tout son cœur de breton. Et tu sais, un breton, ça vaut presque un morvandio pour la fidélité. Voudrais-tu, puisque tu es libre maintenant, que nous allions à cet hôpital? Tu me présenterais à lui et peut-être à mademoiselle Gauthier, si toutefois l'entrée des laboratoires n'est pas interdite. Avec moi, elle ne sera point, répondit Corte. Laisse-moi dépouiller cet uniforme, conclut-il en enlevant sa blouse, et nous y allons de ce pas. L'hôpital des enfants malades est précédé de quelques beaux arbres qui verdoyaient lumineusement par ce bel après-midi. Doivent-ils en avoir des idylles? Fit Corte. Ces demoiselles doivent se consoler gaiement à cette ombre de leur dur métier. Il redevenait cynique. Hors de ces ferveurs cliniciennes d'admirateur de trousseau, le carabin reparaissait en lui, aussi commun et familier que l'interne du professeur Louvet était exalté. Biscoët, nous voulons rendre visite à tes laborantines, dit-il au camarade à qui le garçon de service avait porté sa carte. Monsieur Marcel Bréchet, ajoute-t-il sur un ton ironiquement cérémonieux, en présentant son compagnon, un de mes copains du collège d'Auxerre, un descendant du grand anatomiste. Il est maintenant professeur au lycée de Nevers et il vient à Paris pour travailler sa thèse sur Janus, tu entends? Ah, le dieu a deux visages. Par la politique qui court, ricana Discoët, c'est très actuel. Oui, des amis de province l'ont chargé en vue d'un futur mariage, pas pour lui, s'entend, de prendre des renseignements sur le métier particulier des infirmières de laboratoire. Je vois la chose. Ce grand mot nouveau de laborantine épate un peu les bourgeois de province, répliqua Discoët avec un rire de sa grosse figure bretonne. À Saint-Brieuc, on prendrait ces dames pour des nonnes d'un nouvel ordre religieux, pour d'autres visitandines. Je vais vous mener chez elles, monsieur Bréchet, pour quelques minutes, vous verrez quelles sont leurs dévotions. Il introduisait ses visiteurs dans une assez grande pièce, toute nue, qui avait une physionomie de pharmacie, avec des étuves à gaz, des éprouvettes. Penchées sur des tables de lave, trois jeunes filles s'occupaient à examiner, sur des petites lamelles de verre, des prélèvements pris à même les malades. Deux d'entre elles dévisagèrent les nouveaux venus. La troisième continuait sa besogne, avec une scrupuleuse patience où Marcel reconnut celle qu'il cherchait, d'après le témoignage communiqué par son grand-père. Celle-là, lui disait tout bas Discoët en la désignant d'un geste de tête, c'est mademoiselle Gauthier, la merveille d'ici, pour son culte du labo. Oh, je vais tout de même vous présenter. Paul Gauthier releva sa tête au nom de Bréchet. Ses yeux bruns se fixèrent sur Marcel, à qui elle ne posa pas une question. Mais il était visible que l'idée d'une parenté probable entre lui et l'ancien patron des siens l'émouvait. Pour qui eût connu la vérité, les traits de ressemblance lui seraient révélés cette parenté. Les deux jeunes gens avaient l'un et l'autre du type auvergnat, le front large, le menton un peu fort, cet air à la fois sérieux et défiant, propre à l'hérédité paysanne, une même couleur sombre des cheveux et des intonations pareilles dans la voix. Marcel était le seul à se douter d'une ressemblance que les confidences de son grand-père lui rendaient saisissante. Qu'étudiez-vous là, mademoiselle? Demandait Corte. Un prélèvement de mucosité nasale, répondit-elle. Mais Mademoiselle Gauthier, fit Discoret, s'intéresse particulièrement aux recherches sur la tuberculose. Oh, il y a de premier ordre. La patiente jeune fille se penchait de nouveau sur son travail, comme insensible à l'éloge d'elle que ses deux compagnons, sans doute émus par l'attention dont elle était l'objet, parurent écouter avec une nuance d'envie. « Oui, insista Discoët, elle nous a permis d'éviter bien des catastrophes, mais elle est modeste et n'aime pas se mettre en avant. » Paul continuait à ne pas répondre. Elle semblait même ne pas entendre. « Où en sont vos examens concernant la petite Christiane, ces dolicocolons qui vous préoccupaient tant ce matin ?»« Bon, la cutie réaction est positive, mais je trouve toujours pas le bacille. » Mais tous ces petits malades ne se confondent pas dans votre tête, mademoiselle ? Interrogea Marcel, surpris par la technicité précise de sa réponse. Ah, parlez-moi du monde, fit-elle. Ma mémoire est un véritable différenciomètre. J'en suis fort aise. Si je vis trop loin des malades, cela me permet pourtant de les suivre un peu par les modifications de leurs examens de laboratoire. « Mais, dit Marcel, cela doit augmenter aussi vos inquiétudes. »« Oh, l'inquiétude, repartit-elle, est la première vertu du médecin et de tous ceux qui travaillent avec lui. » Discoët reprit la parole. « Heureusement que Mademoiselle Gauthier ne professe pas seulement cette mystique de notre métier et qu'elle est avant tout scrupuleusement exacte dans ses analyses. » Ben bon, bon, laissons-la travailler, et venez voir un peu notre crèche. » C'était dans une petite cour, une galerie ouverte, où se trouvaient 5 ou 6 lits de tout petits enfants. Des infirmières les surveillaient, allant de l'un à l'autre, donnant du lait à celui-ci, obligeant cet autre à rentrer ses bras sous la couverture, calmant les colères d'un troisième. « Ce sont des mamans en disponibilité, » disait Discoët. « Ne leur répète pas cela, » répondit Cortet, « elles n'ont que trop de tendance à le devenir en réalité. »« Pas toutes, il y en a quelques-unes, je le constate depuis que je suis ici, qui possèdent vraiment des natures de religieuses. Leur hôpital, c'est leur couvent. »« Nous venons d'en avoir la preuve, » dit Marcel. « À part les discours de Paul Gauthier, » répondit Discoët. « Oh, celle-là s'occupe aussi de littérature. » Son frère est un libraire. Il lui prête des livres qu'elle dévore dans le métro. Je crois que sa mère, qui besogne dans les vêtements d'enfant, est plus ou moins auvergnate. Une étrange race, toute mêlée de matérialisme et d'exaltation, mais bien travailleuse. Sans cette petite Gauthier, comment marcherait notre labo ? « Oh, mon vieil ami Discoët a toujours eu des côtés gobeurs, » disait Cortet en reconduisant Marcel Bréchet après cette conversation. « Ces petites laborantines ont par jour 8 heures d'occupation. Et qui, de 24 heures aux 8, reste 16 ? Ces 16 heures, à quoi les emploient-elles ? Avant d'être laborantine, cette petite Gauthier était simple infirmière. Elle a passé le diplôme d'État. » Et s'est habitué aux veillées. Avant de la recommander à Teddy Vernet, tâche donc de prendre d'autres renseignements sur ses veillées actuelles. Oh, je t'y aiderai. La grande vertu du médecin, c'est pas, comme elle prétend, l'inquiétude. C'est la recherche de la vérité sur les jeunes filles, veux-tu que je te le dise en style de carabin? 50% sont des chameaux. Je rentre justement à la Hennec en soigner une qui... Ah, mais voilà le tramway. Il va m'éviter de manquer au secret professionnel. Nec wissa, nec audita, nec intellecta. Pas vu, pas entendu, pas comprise. En attendant, je te le répète, renseigne-toi mieux sur ta laborantine. Il s'était élancé dans son tramway et, continuant de marcher tout seul, Marcel songeait. C'est curieux de voir comme ces scientifiques sont des psychologues élémentaires. Avec quel accent cette pauvre petite Laborantine nous a parlé des choses de son métier. Et cet excellent Corteil qui la classe d'un coup parmi les hypocrites. Je vais raconter mes impressions à mon grand-père et tout de suite, elles lui feront tant de plaisir. Il prenait le chemin du boulevard Suchet en hâtant le pas dans l'espoir que l'homme d'affaires serait chez lui avant d'aller au Cercle où il avait ses habitudes. Non, il était là, qui classait des papiers. « Grand-père, commença Marcel, j'ai vu Paul dans son hôpital. »« Comme tu es gentil, répondit Bréchet, alors quelle impression t'a-t-elle faite? Tu as pu causer avec elle ?»« Non, mais je l'ai entendu faire une profession de foi vraiment émouvante. Elle pratique son métier avec une ferveur presque pieuse. » Celle de sa confidence à son frère. Ah oui, elle est bien de notre sang. La vieille église de Choria n'a pas cessé de créer en nous des croyants que leur foi dans leurs idées égare souvent. Tu en as en moi une preuve. Bon, je suis libre penseur, mais les libres penseurs croient encore à leur façon. Il faut que tu connaisses sa mère maintenant. Qui ne se pardonne pas l'égarement dont on a acquis cette fille. Mais elle l'a élevée pour en faire une dévouée. Ce Larny ne se trompe pas en éprouvant pour elle les sentiments qu'il a si bien peints dans le lac caché. Quand nous aurons établi cette note, quelle famille fonderont ces deux enfants? Ce désir de connaître enfin la mère de Paul était trop intense chez Marcel. Il ne put attendre une occasion qui eût légitimé et retardé cette rencontre. Il employa le prétexte le plus simple, qui risquait pourtant d'éveiller une défiance, celui d'une visite dans la petite maison de la rue Saint-André-des-Arts, où elle avait son atelier et sa boutique. Il se proposait de demander quelques renseignements sur les prix des vêtements d'enfants qu'elle confectionnait et sur la qualité des étoffes. Il n'avait pas calculé que les ouvrages sont faits par des ouvrières qui le plus souvent les emportent chez elles. La réserve des objets laissés chez la patronne ne présente donc pas beaucoup de choix. Comme Madame Gauthier lui expliquait cette pauvreté d'échantillon, ses mains ridées qui les posaient devant lui tremblaient si fort qu'il en fut gêné. Il avait cru devoir se nommer, pensant bien que Raymond avait raconté à sa mère la visite du vieux Bréchet et de son petit-fils à la librairie. La confession de son grand-père rendrait trop présent à celui-ci le roman qui avait uni ces deux êtres, elle, la femme du peuple, réservée, sérieuse, si peu faite pour une aventure galante, lui, le patron, que cet abus de sa situation bourrelait déjà de scrupules. La flétrissure de l'âge et du souci ne laissait à la Thérèse d'il y avait 25 ans que la finesse des traits et l'ardeur des prunelles qui avaient tant pleuré. Marcel ne put pas supporter ce contraste du passé et du présent. « Excusez-moi, madame, dit-il en se retirant presque aussitôt, ce n'est pas tout à fait ce que je cherchais. » Elle ne répondit pas, mais au détour de cette vieille petite rue, en se retournant, il l'aperçut qui le suivait du regard avec une curiosité inquiète. « Elle aura su par sa fille que je suis allé aussi au laboratoire, » songea-t-il. « Elle se demandera pourquoi et ce que mon grand-père m'aura dit. » Puis, chassant cette idée, pensons plutôt à ma thèse sur Janus pour me justifier auprès du proviseur si mon père lui demande une petite prolongation de congé. Bon, allons cette fois à la nationale. Ce qui caractérise la mentalité du fonctionnaire, c'est, pour emprunter de nouveau un de ces mots à la langue d'aujourd'hui, un conformisme scrupuleux. Il a ce défaut d'exclure l'initiative et cette qualité de mettre en valeur des vertus de patience et d'ordre. Depuis et de par son hérédité, Marcel Bréchet les possédait, ces vertus. Il est pratiqué d'instinct, et malgré son intérêt autour du drame secret que vivait son grand-père, il commença, en dehors de ses visites au boulevard Suchet, d'employer toutes ses heures, pendant ces quelques jours, non pas, comme il lui semblait naturel, à des distractions parisiennes, mais à se documenter, rue de Richelieu, sur la légende du vieux dieu romain. Son père s'était, ainsi que Marcel le prévoyait, arrangé avec le proviseur pour que le séjour à Paris fût au besoin un peu allongé, et le futur docteur compulsait, dans le silence de la vieille bibliothèque, les pages de Saint-Augustin, de Macrobe, de Varron, d'Ammien Marcellin, de Procope, où il est parlé de ce dieu que ses fidèles appelaient le plus ancien protecteur de l'Italie. Quelle énigme présente la seule étymologie de son nom? Faut-il croire, avec Cicéron, que le mot Janus dérive du verbe ire, ou comme Figulus, que c'est une forme masculine du mot Diana, qui viendrait de Dius, le ciel lumineux? Sa forme primitive était-elle Divanus, le dieu des limites de l'espace et du temps? De tels problèmes, après les événements auxquels le jeune érudit venait d'être initié, lui procuraient cette sorte d'apaisement abstrait contre lequel il se révoltait à Nevers dans sa chaire de professeur et dont il jouissait comme d'une détente. Lorsqu'un coup de théâtre se produisit bien inattendu, et précisément un matin où il se rendait à la Nationale, à la porte de laquelle le guettait Justin Cortet.